franceinter.fr
13h. Le journal Alain Passerelle. Alain, bonjour.
Bonjour. Au sommaire de cette édition, François Bayrou, qui ne fera pas partie du nouveau gouvernement, le garde des Sceaux et sa fidèle Marielle de Sarnez ont démissionné ce matin. Le Modem, leur parti, est visé par une enquête préliminaire sur des soupçons d'emploi fictif au Parlement européen. Nous reviendrons sur l'historique de cette affaire, nous en verrons les coulisses et les conséquences politiques. À Matignon, on affirme que la nouvelle équipe gouvernementale sera prête comme prévu à 18h. Au téléphone avec nous, Corinne Lepage, ancienne vice-présidente du Modem, qui en son temps avait refusé ce qu'on peut appeler le système Bayrou et qu'il avait d'ailleurs révélé dans un livre il y a 3 ans. Politique toujours, il l'avait annoncé, il l'a fait. Thierry Soler a créé ce matin un groupe, les Républicains Constructifs UDI et Indépendants. Christian Jacob, lui, a été réélu à la tête du groupe. Et puis, comme hier, les Insoumis, les frontistes sont arrivés ensemble ce matin à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen, évidemment, à leur tête. Renégocier son prêt bancaire. L'UFC Que Choisir accuse les banques de ne pas jouer le jeu. Les clients, affirme l'association, sont pénalisés. La canicule et ses conséquences, la pollution en Ile-de-France, la circulation différenciée sera mise en place demain. Dans cette édition également, les détails sur l'homme tué à Bruxelles hier soir, après un attentat raté. Le climat toujours plus tendu à Calais, après l'accident qui a tué un chauffeur hier. Le choix cinéma d'Eva Bettan, un excellent film imparfait, elle adore. Et puis la fête de la musique en direct sur Inter ce soir. 2 jeunes chanteuses en direct de l'Olympia, entre autres, Fishback et Juliette Armanet. Le temps de ce mercredi, bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Qui est toujours de forte chaleur.
Et oui, 66 départements en vigilance orange, le thermomètre s'enflamme encore aujourd'hui. La nuit a été trop chaude, cet après-midi on attend 28 à 33 degrés sur les côtes du nord-ouest et de la Méditerranée, 34 à 37 ailleurs, près de l'océan, près de la Méditerranée, près de la Manche également, beaucoup de soleil, ailleurs du soleil, mais ça tourne à l'orage, d'abord en montagne et puis on attend des orages parfois forts, un risque d'averse et d'orage en pleine également en fin de journée, en soirée, qui pourrait d'ailleurs venir contrarier la fête de la musique.
Et demain, même chose, Elodie?
Alors la nuit prochaine sera pénible, effectivement, sauf vers la Manche, on descendra autour de 15 degrés. L'après-midi, la chaleur sera encore écrasante sur la plupart des régions, toujours 33 à 37 degrés. Ça commencera à aller un petit peu mieux sur la façade ouest, 23 degrés à Dinard, 25 à Biarritz, 28 à La Rochelle. Vendredi, la baisse des températures se poursuivra enfin sur l'ouest et le nord, 21 à 31 degrés, mais encore 32 à 37 entre l'Alsace et la Méditerranée.
L'Élysée comme Matignon ont tenu à le préciser ce matin, peut-être histoire de montrer que l'exécutif est en aucune manière dépassé. L'objectif d'annoncer la composition de nouveau gouvernement d'ici 18h est maintenu. On verra bien, car trouver à remplacer 3 postes ministériels, dont 2 régaliens, n'est pas forcément très facile. C'est Sylvie Goulard qui a montré le chemin hier. François Bayrou et Marielle de Sarnez ne pouvaient finalement que suivre l'ex-ministre des Armées. Désireuse, avait-elle expliqué, de démontrer au juge sa bonne foi dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Modem. On vous retrouve, comme hier, à cette même heure, Sylvain Tronchet, bonjour.
Bonjour Alain.
Vous êtes journaliste à la cellule investigation de Radio France, je le rappelle, c'est vous qui avez enquêté sur ces assistants payés par Bruxelles et qui auraient travaillé pratiquement exclusivement pour le compte du Modem. Ce sont vos révélations qui ont conduit à la situation d'aujourd'hui. Il n'est pas inutile de refaire l'historique de tout cela.
Et rappelez que cette affaire éclate au grand jour il y a 2 semaines maintenant, avec le signalement au parquet d'un ancien assistant parlementaire de Jean-Luc Benamias qui vient expliquer à la justice qu'il a été payé par le député européen pendant 1 an, alors qu'en réalité, il ne travaillait que pour le Modem. Alors pourquoi le fait-il? Pourquoi vient-il témoigner soudainement? Il y a eu beaucoup de spéculations autour de ça. Je crois pouvoir vous dire qu'il le fait parce qu'il sait que l'affaire va sortir. Il s'inquiète avec d'autres. D'ailleurs, à la cellule d'investigation avec Élodie Guéguin, nous sommes en contact avec lui depuis quelque temps à ce moment-là. Et par la suite, nous allons identifier au moins 7 autres cas qui posent question, parmi eux le directeur financier du Modem, le responsable de la formation du parti, tout le service communication, jusqu'à la standardiste, tous rémunérés plus ou moins partiellement sur fonds européens, alors que leur temps de travail semble être consacré exclusivement au mouvement. Libération vient d'ajouter 3 noms à cette liste ce matin. À l'arrivée, il semble se dessiner un système de financement du fonctionnement du MoDem via des emplois d'assistants parlementaires, ce que François Bayrou conteste jusqu'ici.
Alors dans cette histoire, je rappelle aussi l'épisode de François Bayrou qui téléphone à Jacques Monin, le responsable de la cellule d'investigation, pour se plaindre de vous, entre autres, Sylvain, qui harcelait, dit le garde des Sceaux, les assistants. Alors dans quelle mesure François Bayrou peut-il être inquiété puisqu'il n'était pas député européen et qu'il n'avait pas d'assistant lui-même à sa disposition?
Effectivement, il ne peut pas être visé directement puisqu'il n'est pas employeur directement par l'enquête préliminaire qui a été ouverte pour abus de confiance. Mais si on considère que parmi les contrats qui posent question, il y a sa chef de cabinet, il y a son assistante personnelle, si on considère sa position de chef de parti, donc d'ordonnateur, il est probable que les enquêteurs de l'Office anticorruption veuillent l'entendre, d'autant que d'après notre enquête, la période où il y a le plus d'assistants parlementaires dans les murs du MoDem au 133 rue de l'Université, c'est sur les années 2009-2012, c'est le moment où François Bayrou prépare sa troisième campagne présidentielle, celle dont il pense qu'elle va être la bonne, après ses 18% de 2007. Mais c'est aussi une période de vache maigre pour le parti, dont le financement public s'est alors effondré.
Merci Sylvain Tronchet. Je rappelle que samedi, Secret d'Info, à 13h20 sur France Inter, reviendra sur cette affaire. Alors voyons maintenant les aspects politiques de tout cela. Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
Alors d'abord, les coulisses de cette démission, c'est un peu un billard à trois bandes, comme on dit.
Voire même quatre ou cinq bandes. Jusqu'à hier matin, François Bayrou n'envisageait aucunement de démissionner. Ce qui fait basculer le garde des Sceaux, c'est le départ de Sylvie Goulard, qui nous est présentée aujourd'hui comme ayant été fomentée en coulisses avec Emmanuel Macron. Le chef de l'État aurait contourné le problème Bayrou en utilisant sa ministre des Armées démissionnaire. Elle acculait de fait le ministre de la Justice, mis sous pression et qui n'a eu d'autre solution que de lui aussi jeter l'éponge. D'autres pensent que c'est Sylvie Goulard toute seule qui a demandé à quitter le gouvernement au nom de sa propre probité et que l'exécutif a été mis devant le fait accompli, mais peut-être pour redorer son blason, le président tente aujourd'hui de faire croire que l'opération a été ficelée en haut lieu. Question maintenant, que se passera-t-il pour la loi de moralisation, la loi Bayrou? Le texte sera présenté tel quel, jure-t-on à l'Élysée, avec quelques ajustements à la marge. Le nouveau ministre aura peut-être envie d'apporter une petite touche personnelle. Enfin, une dernière chose sur François Bayrou, il sera resté seulement 35 jours garde des Sceaux, ce n'est pas un record. Maurice Faure, lui, a occupé ce poste sous François Mitterrand entre le 22 mai et le 22 juin 81. Il a été remplacé par Robert Badinter.
Hier, à cette heure-ci, Cyril, vous nous disiez qu'il ne serait pas simple de trouver un nouveau ou une nouvelle ministre des Armées. Voilà que maintenant, il faut trouver non seulement une ministre chargée des Affaires européennes, mais surtout un ou une garde des Sceaux.
Épreuve supplémentaire que le ciel leur est tombé sur la tête hier. Tous, Édouard Philippe, Christophe Castaner, répétaient hier matin que le remaniement serait sporadique. Il se voulait technique, ce remaniement. Il devient aujourd'hui hautement politique. Deux ministres régaliens sur quatre à trouver, ça n'est pas rien. Exit le MoDem, l'exécutif va certainement vouloir récupérer d'ex-élus les Républicains, des constructifs histoire de dynamiter un peu plus la droite.
Et en principe, je dis bien en principe, on devrait connaître la composition du gouvernement avant 18h.
Le secrétaire général de l'Élysée pourrait l'annoncer ailleurs que sur le perron d'ailleurs du palais présidentiel, comme le veut la tradition, car un orchestre de jeunes colombiens doit s'y produire dans l'après-midi à l'occasion de la fête de la musique. C'est salsa à l'Élysée, à tous les étages, visiblement.
Merci Cyril Graziani. Je précise que François Bayrou devrait s'exprimer à 17h devant la presse. Rien de tel qu'une bonne affaire comme celle-ci pour redonner de l'énergie à une opposition quelque peu sonnée par la séquence électorale macronienne. Ça ne vous a pas échappé. Macron jette Bayrou comme un vieux torchon, estime Marine Le Pen. Très révélateur, selon elle, de l'esprit du président de la République. Chez les Insoumis, Éric Coquerel dit avoir l'impression que l'enfumage autour d'Emmanuel Macron, d'une République exemplaire, va se révéler celui d'une 5e République avec tous ses défauts. Et chez les Républicains, Laurent Wauquiez parle de crise gouvernementale majeure et de scandale politique. Bonjour Corinne Lepage.
Bonjour.
Avocate, ancienne ministre de l'Environnement, vous avez été vice-présidente du MoDem de 2008 à 2010. Vous avez soutenu Emmanuel Macron à la présidentielle, hein, précisons-le. Vous avez été entendue comme témoin hier dans l'enquête préliminaire ouverte il y a une dizaine de jours. Dans un livre publié en 2014, vous disiez avoir refusé cette pratique du double emploi des assistants. Ça se passait comment concrètement à l'époque ?
Écoutez, mes souvenirs sont anciens, hein, mais un document était demandé avec des petites cases à cocher, je ne l'avais pas fait. À l'époque, j'ai pas fait de vague autour de cela. J'ai pris cette position-là parce qu'elle me paraissait régulière, c'est tout. Alors j'avais proposé, si le MoDem le souhaitait, qu'un de mes assistants parlementaires puisse fournir des dossiers au MoDem sur les affaires européennes que je suivais, c'est-à-dire les dossiers santé-environnement. Et rien ne m'a jamais été demandé.
Voilà. Pourquoi, quand vous avez révélé toutes ces pratiques dans votre livre en 2014, pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas entendu, en fait ?
Écoutez, je ne sais pas, je me suis peut-être mal exprimée, j'en sais rien. Non, je pense que les choses n'étaient pas mûres. Et puis, si vous voulez, ce passage-là est un tout petit passage du livre, il y a 10 lignes. En fait, le livre est consacré à la crise des partis politiques, au fait qu'ils vont imploser, c'est-à-dire ce à quoi on a assisté là maintenant, et au fait que la société civile doit prendre le relais, c'est exactement ce qui vient de se passer. Donc l'essentiel du bouquin n'était pas du tout là-dessus, et l'état d'esprit du bouquin n'était pas du tout, comme certains ont voulu le faire croire, par la suite de la dénonciation. C'était simplement un exemple que je donnais, d'une manière de faire qui ne me semblait pas correcte. C'est tout, ça n'allait pas au-delà. Et je n'ai cité qu'un cas, qui était évident parce que c'était une affaire d'organigramme et que tout le monde savait qui était le chef de cabinet, secrétaire particulier de François Bayrou, et qu'elle était en même temps assistante parlementaire de Madame de Sarnez. Mais je me suis arrêtée là et j'ai jamais cherché à savoir comment ça se passait, qui employait qui, etc. Je suis pas un inquisiteur, je suis pas un policier.
Bien sûr.
C'est pas mon rôle, voyez-vous.
Vous êtes témoin dans cette, vous avez été entendu comme témoin dans cette enquête préliminaire. Qu'est-ce qu'on vous a demandé des détails ou...
Pardonnez-moi, je ne souhaite pas communiquer là-dessus. J'ai dit à la police ce que je croyais devoir dire. J'ai répondu aux questions qui m'ont été posées, ce qui est, je dirais, le travail de tout citoyen, mais je ne souhaite pas communiquer là-dessus. Ça appartient à la justice.
On voit que la moralisation est de plus en plus présente dans la vie politique. Évidemment, vous approuvez tout cela. Est-ce qu'il n'y a pas des degrés divers ? Je veux dire, est-ce que c'est si grave que ça d'employer des assistants parlementaires à une tâche différente de celle qu'elles occupent ? Tout ça, c'est de l'argent public, on pourrait se dire.
Oui, mais c'est pas tout à fait le même. Et puis, il y avait des règles européennes à partir de 2009. Avant 2009, je dirais que c'était des règles françaises qui étaient dans le flot artistique le plus complet. À partir de 2009, il y avait un certain nombre de règles au niveau européen qu'il fallait respecter. C'est pas un crime, hein. Bien sûr que non.
Alors, c'est pas de l'enrichissement personnel, par exemple.
Non, c'est pas de l'enrichissement personnel, c'est pas un crime. Mais disons que ce qui me paraît, mais là c'est pas pénal, ce que je vais dire, le plus dommageable, c'est que quand vous n'employez pas vos assistants parlementaires à vous aider pour votre travail parlementaire, ben vous n'arrivez pas à le faire convenablement. Voilà, c'est ça la difficulté.
Est-ce qu'on peut parler, Corinne Lepage, de système Bayrou ? Est-ce que c'est un terme trop fort ?
Je n'en ai jamais parlé parce que, comme je vous le disais à l'instant, je n'ai jamais cherché à savoir qui employait qui et comment ça se passait. Il est clair que si c'est une ou deux personnes ou trois personnes, c'est pas un système. Si vous arrivez à un grand nombre de personnes, la question se posera de manière différente.
Enfin, c'était tout de même, comment dire, reprenons ce terme de système, c'était quelque chose employé pour François Bayrou, pour son usage personnel, pour l'usage de son parti, en tout cas.
Oui, et ce qui apparaît là maintenant, c'est ce qui apparaît dans la presse, donc tout ça reste bien entendu à voir dans le cadre de l'enquête préliminaire, c'est que beaucoup de personnes auraient été employées au moment de la campagne présidentielle de 2012. Mais encore une fois, moi je n'ai jamais parlé de ça parce que je ne le savais pas, je n'étais plus au MoDem, et donc je n'avais aucune raison d'aller regarder la manière dont ça fonctionnait.
Merci Corinne Lepage, merci d'avoir été avec nous dans ce journal de 13h. La suite de la page politique, et on va du côté des Républicains. Eh bien, c'est fait. Thierry Soler a annoncé, comme il l'avait dit ce matin, un nouveau groupe. Ça va s'appeler, c'est un peu long, les Républicains constructifs, UDI et indépendants. Bonjour Karine Bécard.
Bonjour.
Vous êtes à l'Assemblée. Alors, constructif ou pas, à LR, chacun compte ses troupes. Hein.
Exactement. Et je vous rappelle pour commencer qu'au départ, il y a 113 députés, les Républicains, qui ont été élus à l'Assemblée. Seulement ce matin, ils n'ont été que 94 à participer au vote pour choisir le président du groupe LR au Palais Bourbon. Autrement dit, il y a 19 députés qui, visiblement, ont choisi le camp d'en face, le camp des constructifs, qui, justement, a annoncé aujourd'hui, vous le disiez, le ralliement officiel de l'UDI, donc le nouveau groupe Les Républicains Constructifs, UDI et Indépendants, compte a priori au moins 37 parlementaires, emmenés pour l'instant par Thierry Soler.
Ce groupe, dont La composition complète sera faite mardi prochain, comme le règlement de l'Assemblée nationale le prévoit. Rassemblera donc des députés Les Républicains, des députés issus de l'IDI, des députés indépendants, qui se reconnaissent souvent dans les valeurs de la droite et du centre droit, et qui partageront à l'Assemblée nationale cette volonté d'avoir de nouvelles pratiques politiques avant toute considération partisane.
Alors bien sûr, l'objectif des constructifs, c'est de ne pas s'arrêter à 37 membres, c'est de devenir la troisième force de l'Assemblée nationale. Et à dire vrai, la courte victoire ce matin de Christian Jacob à la tête du groupe LR les a tout simplement réjouis. Certes, il engrange 62 voix, mais l'inconnu Damien Abad en a lui obtenu 32, un tiers des suffrages, qui n'a donc pas souhaité soutenir l'ancien chiracien, devenu sarkozyste, qui incarne aux yeux de certains la vieille politique. Ces 32 députés-là pourraient, qui sait, se laisser tenter par la nouvelle aventure des constructifs.
Merci Karine Becker à l'Assemblée, avec à vos côtés Yvan Turc. Et pendant ce temps, dans ce même palais Bourbon, les députés tout juste élus viennent prendre connaissance peu à peu des lieux, certains individuellement, sinon modestement, d'autres arrivent en bande pour bien se faire remarquer et filmer. Ce fut le cas hier des Insoumis, ce matin c'est autour du Front National. Et vous étiez là, Sébastien Sabiron.
Oui, et ça a commencé par un petit café, place du Palais Bourbon. Marine Le Pen entourée de ses 7 députés. Tout le monde est là. Des visages souriants pour les caméras. Celui un peu tendu de Ludovic Pajot, 22 ans, le Benjamin de l'Assemblée. Et puis la petite équipe fait son entrée. Visite de l'hémicycle pour les nouveaux, comme Louis Alliot, 3 fois battu et aujourd'hui élu.
Je suis très heureux de représenter les Pyrénées-Orientales et la nation en même temps. Et puis je vais m'occuper tout de suite des dossiers qui nous préoccupent localement. Tout ce qui est viticulture, ruralité, défense des services publics, parce que là nous sommes directement touchés dans l'anti-transcription.
Gilbert Collard, lui, rempile dans le Gard. Il a fait connaissance ce matin avec quelques députés de La République En Marche.
D'abord, ils sont beaucoup plus aimables que les socialistes et estampillés socialistes. Ils disent bonjour. Moi, quand j'étais arrivé il y a 5 ans, aucun socialiste ne nous saluait. Bon, maintenant, je crains fort que la réalité de l'Assemblée nationale ne révèle le vide abyssal de cette majorité.
Du côté de Marine Le Pen, pas de temps pour l'émotion. Dans l'impossibilité de créer un groupe, la présidente du Front National resserre son refrain habituel sur la représentativité.
Ce mode de scrutin est un véritable scandale, puisqu'encore une fois, avec 1,5 million de voix au second tour des élections législatives, nous n'avons que 8 députés. Alors qu'avec un tiers de moins, le MoDem en a 42, une vraie fracture entre les Français et leur représentation nationale.
Et de glisser un commentaire, vous l'évoquiez Alain, sur le départ de François Bayrou, révélateur selon elle de l'état d'esprit d'Emmanuel Macron. Il s'est servi de Bayrou pendant la campagne. Maintenant qu'il n'a plus besoin du MoDem à l'Assemblée, il le jette comme un vieux torchon.
Sébastien Sabiron avec à ses côtés Raymond Albouy. Merci. Côté PS enfin, la députée des Deux-Sèvres, Delphine Bateau, annonce son désir de briguer la présidence du groupe PS à l'Assemblée. Ce sera l'objet d'un vote demain matin.
France Inter, le journal de 13h. Alain Passerelle.
Maquette alors, ça continue. 66 départements sont toujours placés à l'heure actuelle en vigilance orange canicule. En région parisienne en particulier, un malheur n'arrivant jamais seul, les fortes chaleurs entraînent une forte pollution à l'ozone. Polluant, responsable chaque année, précise Santé publique France, de 500 décès pour cause respiratoire. La ville de Paris parle de conséquences délétères pour les populations les plus fragiles et elle demandait instamment à la préfecture de prendre des mesures de restriction de circulation. C'est fait. Depuis une heure à peine, la circulation différenciée sera instaurée demain à Paris et en région parisienne, dans le périmètre compris entre la capitale et la ceinture autoroutière que forme l'A86. Seuls les véhicules dotés des vignettes critères de classe 0 à 3 pourront circuler. Renseignez-vous en tout cas. Avant cette décision, Bénédicte Robin s'était rendue ce matin dans les rues de Paris.
Au troisième jour de pic de pollution, certains Parisiens commençaient à s'agacer.
Moi, je viens d'emmener mon petit garçon avec la poussette, je suis obligé de le protéger sous un drap. Tout le monde devrait faire de la marche à pied et prendre le métro aujourd'hui.
Cela dit, la mesure en question, interdire les diesels d'avant 2006, les deux roues d'avant juin 2000, n'est pas forcément très satisfaisante.
Ça me gêne de dire pour les gens qui travaillent de faire quoi ? De moins conduire, de prendre les transports en commun par exemple. Mais vous savez, j'habite Versailles. C'est pas évident de venir de Versailles dans les transports en commun.
C'est pas évident en fonction de votre travail de ne pas utiliser votre voiture. Si vous avez des enfants, le métro n'est pas conçu pour, c'est impossible.
Mais elle peut avoir un vrai impact sur la qualité de l'air, confirme Amélie Fritz, ingénieure à Air Paris.
Toute mesure qui va viser à réduire les précurseurs de l'ozone, le trafic, et l'industrie. Donc ces éléments qui vont sous l'influence des UV former de l'ozone va permettre de limiter.
C'est donc indispensable et à poursuivre sur le long terme, insiste Christophe Najdowski, adjoint au maire de Paris chargé des transports.
À partir du 1er juillet, nous allons renforcer les restrictions de circulation pour les véhicules de critère 5, c'est-à-dire les diesels antérieurs à 2001. Et c'est ça qui permettra aussi de réduire l'intensité des pics de pollution quand on a des phénomènes atmosphériques comme ce pic de chaleur qu'on connaît en ce moment.
Aujourd'hui, d'après Air Paris, le seuil d'alerte à la pollution à l'ozone pourrait être dépassé.
Avec la baisse des taux, beaucoup d'emprunteurs ont renégocié ou voulu renégocier ces derniers mois leurs crédits immobiliers. Seulement voilà, les banques ne jouent pas toujours le jeu, c'est ce qu'affirme en tout cas l'UFC Que Choisir. Alerté par de nombreux témoignages, l'association de consommateurs a saisi la répression des fraudes. Certaines pratiques pénalisent vraiment les clients des banques, Laurent Kramer.
C'est le cas par exemple d'Agnès qui fait partie des 500 dossiers étudiés par l'UFC. La jeune femme sollicite sa banque pour renégocier son taux d'emprunt à la baisse. La banque accepte, mais tarde à enclencher les nouvelles conditions à l'avantage de la cliente. Agnès attend désormais ses nouvelles mensualités à la baisse depuis plus d'un an.
J'ai donc relancé à plusieurs reprises mon banquier par email, par téléphone. Ils vous font une offre parce qu'ils veulent pas vous perdre comme client. Mais ils font tout pour nous décourager, pour reculer l'échéance, la mise en place. Du coup, je perds 3000 euros de non-mise en place au moment de la signature.
L'UFC Que Choisir estime que ces pratiques administratives dilatoires pour empêcher les clients de renégocier ou d'aller vers la concurrence ne doivent rien au hasard. Alain Bazot est le président de l'UFC Que Choisir.
Le fait qu'on ait autant de litiges, ça fait quand même un tiers des litiges qui portent sur ce sujet de la renégociation et on ne peut pas croire que ce soit le fruit du hasard. Les banques ont vraiment tout intérêt d'abord à gagner du temps. L'intérêt de la baisse des taux, le consommateur n'en profite qu'à moitié. Donc ça, c'est bien une volonté de récupérer par une main ce que la baisse des taux permet de donner au consommateur de l'autre.
L'association de consommateurs note que les frais de renégociation ont augmenté dans le même temps de 20% cette année de façon inexpliquée. L'UFC demande au ministre de l'économie d'encadrer strictement les conditions de renégociation des crédits immobiliers.
À 19h20, le téléphone sonne sera consacré à cet épisode caniculaire. Décidément, leur maladresse nous va très bien. Encore un attentat raté. Cette fois, ça s'est passé hier soir à la gare centrale de Bruxelles. Un homme qui déclenche une explosion qualifiée de modeste avant d'être pris pour cible par l'une des patrouilles militaires qui parcourt la ville depuis les attentats de mars 2016 en Belgique et avant d'être tué. On en sait un peu plus sur cet homme depuis ce matin. Il s'agit d'un Marocain de 36 ans qui était domicilié à Molenbeek, commune d'où sont originaires la plupart des kamikazes des attentats de Paris et Bruxelles. Revenons maintenant sur cet accident mortel à Calais. Hier matin, très tôt, le conducteur d'une camionnette est mort après avoir percuté un camion. Le poids lourd était à l'arrêt, bloqué par un barrage de fortune installé par des migrants. Un drame qui crispe un peu plus encore une atmosphère déjà tendue dans la ville. Et la mairie n'hésite pas à pointer du doigt désormais certaines associations. Rosalie Lafarge.
La maire de Calais l'assure, il n'y a qu'à voir les photos de l'accident et du barrage installé sur l'A16 pour comprendre, les migrants ne sont pas les seuls responsables. Natacha Bouchard.
Vous croyez que les migrants sont arrivés avec leur meuleuse, leur tronçonneuse pour aller créer des armes qui ont été jetées sur la rocade? Je dis que autour des migrants, il y a des passeurs et certains activistes qui sont dans certaines associations, oui, très clairement.
Ces accusations, l'auberge des migrants préfère passer outre. Pour cette association, le drame s'explique autrement.
C'est le résultat d'une situation où la frontière est bloquée, et les gens qui bloquent l'autoroute, c'est un peu des desperados, des gens qui n'ont pas d'autre solution pour trouver un camion.
François Guénoc est bénévole à l'auberge des migrants.
Ce qui est un peu dur en ce moment, c'est la tension qui augmente, le stress du côté des réfugiés, les pressions de la police. Les policiers courent après les migrants parce qu'ils ont comme consigne de les décourager de rester, donc ça passe par pas mal de violences, enlèvement d'affaires personnelles, etc. Et sur les associations, les entraves aux distributions en particulier.
Le secteur associatif et la mairie ont des solutions bien différentes pour apaiser les choses à Calais, mais ils s'accordent sur une chose, c'est à l'État d'agir, et rapidement. À Calais, Rosalie Lafarge, France Inter.
À propos de migrants, c'est ouvert ce matin en Autriche le procès de trafiquants, de passeurs responsables de la mort atroce de 71 personnes entassées dans un camion frigorifique et qu'on avait découverte ainsi, c'était en août 2015.
Le choix cinéma du mercredi, le choix de Madame Bétan. Bonjour Eva.
Bonjour.
Anna, mon amour, c'est le titre du film réalisé par Kalin Peter-Netzer, qui est roumain et qui aime les ours, hein, de Berlin, évidemment. Il a obtenu l'or en 2014 pour Mère et Fils.
L'argent, malin de me faire rire.
L'argent pour celui-ci cette année. Ah, plutôt les ours qu'il aime, hein, en fait. Et cela vérifie votre théorie, Eva, des excellents films imparfaits.
Exactement, et elle est très bonne, ma théorie. Quand le cinéma, là, sur l'écran, est puissant, quand il éclate, quand c'est une évidence, je maintiens qu'il y a des imperfections plus belles que des petites réussite s'alliant des petites ambitions. Et s'il fallait une preuve, ce serait le début du film qui est stupéfiant. C'est comme si on entrait tout de suite au milieu de quelque chose. C'est comme si on était tout de suite dans l'incandescence. Deux étudiants, un homme, une femme, ils parlent de Nietzsche. On entre au milieu de la conversation. Pendant que les voisins manifestent leur amour bruyamment. Et la jeune femme a un malaise, une crise de panique qui prend un tour sensuel. Leur histoire débute là, et nous avec eux. Et on se dira plus tard que tous les ingrédients étaient là. Des intellectuels, une femme qui a un trouble psychique réel. Et l'amour qui naît malgré ou à cause de cela. Et c'est un film d'amour. Vous avez remarqué qu'il n'y a plus de film d'amour, les gens n'osent plus. Les imperfections, j'y viens. Une construction heurtée, des allers-retours dans le temps. Par moments, ça fait sens. Par moments, on se dit, mais mon Dieu, là, il est chauve, là, il a les cheveux courts, là, il est enceint. Oui, mais malgré cet agacement, le film résiste, je vous dirais, une chose formidable, qui est rare dans les films, c'est quand le sujet du film arrive et qu'il nous surprend. Et là, je me dis, est-ce que c'est l'ambiguïté de la bonté, l'ambiguïté de cet amour qu'on croyait pur pour une femme malade? Alors voilà, c'est des idées... Voilà mes raisons d'aimer ce film, mais je suis sûre que les gens qui en verront en trouveront d'autres, parce que Anna, mon amour, est un sacré bon film imparfait, oui.
Eh bien, merci, Eva Bétan. Anna, mon amour, donc. Eva, il n'y a pas que le cinéma dans la vie, il y a aussi la musique dont c'est la fête aujourd'hui. Je vous rappelle que depuis ce matin, c'est l'été et que le 21 juin est le jour le plus long de l'année. Alors, si ce soir, vu le climat tropical, vous hésitez à sortir, branchez donc votre radio sur France Inter à partir de 20h jusqu'à 2h du matin. Vous pourrez écouter les pieds dans une bassine de glaçons, un concert à l'Olympia, spécial France Inter. De nombreux artistes aiment Mathieu Chédid, la tête d'affiche. Il y aura les Britanniques, les Charlatans, Gaëlle Faye et aussi deux chanteuses françaises très talentueuses, Fishback et Juliette Armanet, qu'aiment beaucoup, notamment Mathieu Culeron.
Tous les styles de musique seront représentés ce soir à l'Olympia, mais la programmation fera une grande place à la nouvelle chanson française. Une scène féminine avec de l'audace et beaucoup de talent. Et la particularité de cette nouvelle scène, c'est qu'elle a tendance à moderniser la variété française des années 70-80. C'est le cas de Fishback qui s'explique sur ses influences.
J'étais assez sensible à la musique des années 80 parce qu'il y a une noirceur sur un fond dansant qui est en fait assez, qui me plaît beaucoup. En fait, cet écart-là me plaît beaucoup. Des textes très tristes avec des musiques très dansantes. L'audace qu'il y avait dans ces années-là me plaît. Cependant, j'ai jamais cherché à me dire tiens, j'ai envie de faire un truc qui ressemble à Desireless ou à Emile Image ou Rita Mitsoko. Pas du tout. C'est simplement quand je me suis mis à composer, c'est ce qui est venu à moi.
Juliette Armanet sera également sur la scène de l'Olympia ce soir. Elle aussi revisite la variété en faisant quelque chose de délicat et de personnel. Juliette qui a trouvé sa voix sur le tard.
C'est assez récent d'avoir pris conscience, en tout cas, de cette voix-là en moi. Et c'est en composant Manque d'amour que je me suis amusée à partir dans les aigus avec un truc un peu lyrique à la Kate Bush ou de danser un peu avec la voix en montant assez haut. Et en fait, ça m'a bien plu. Du coup, je la travaille comme ça maintenant, ma voix.
Fishback et Juliette Armanet sur la scène de l'Olympia pour la fête de la musique ce soir et en direct sur l'antenne de France Inter jusqu'à 2h du matin.
Sirène de ma vie, j'ai comme
Kate Bush, effectivement, et peut-être Véronique Sanson. Vous pouvez aussi vous rendre à l'Olympia, hein, dans la limite des places indisponibles.